bienvenue à Accès MRC. Mon nom est Isabelle Gagnon et je reçois cette semaine deux invités qui vont nous parler d'un sujet peu commun, en fait d'un projet peu commun, donc un projet d'école primaire privée. Donc je reçois pour en parler, c'est l'école primaire l'Espérance, je crois.
Oui.
Espérance ou l'Espérance, ça a peu d'importance. Donc Mélanie Girard et Amélie Caouette, bienvenue.
Bonjour. Merci, merci.
J'aimerais ça tout d'abord que vous nous disiez... qui sont Mélanie et Amélie, pour nous placer en contexte? Là,
Oui, oui,
tout à fait.
Oui, bien en fait, ben, premièrement, on est toutes les deux cofondatrices de l'école. On reviendra un petit peu tantôt sur l'historique. Mais d'abord, moi j'ai quand même un cheminement là, depuis plusieurs années au sein de notre communauté, dans l'IMRC Maria-Chapdelaine et Domaine du Roi, en tant qu'agente de développement ou coordination de différentes tables. Donc, c'est ça. J'ai un parcours un peu en gestion, si je dirais, okay. Développement. J'ai beaucoup d'implications aussi là, au sein de ma communauté. Je me suis toujours impliquée là, au sein de conseils d'administration ou d'organisation d'événements. Donc, je suis quelqu'un quand même active là, dans ma communauté.
OK. Amélie?
Oui, moi, Amélie, enseignante de formation, maman de 4 enfants. J'ai un projet en parallèle aussi. Là, je suis maintenant travailleur autonome. J'offre mes services pour aider les familles qui font l'école à la maison. Donc, c'est ça. L'enseignement, ça me passionne. Je suis pas uniquement là, dans un domaine. Des fois, on pense que l'enseignement, c'est l'école publique uniquement. Mm-hmm. Mais j'aime bien explorer les différentes options, toujours dans l'objectif d'offrir aux enfants une éducation qui leur convient le plus possible. Donc, voilà, ça fait un petit peu le tour de qui nous sommes.
Ça met un petit peu la table aussi, je pense, à ma prochaine question. Comment c'est venu une idée d'école primaire privée? On voit beaucoup d'écoles secondaires privées. L'école primaire, à moins que je me trompe, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est assez peu commun. Comment c'est venu cette idée-là?
C'est venu de discussions, plusieurs discussions ensemble. En fait, étant donné qu'Amélie est enseignante, je lui disais, mais tu sais, pourquoi pas faire l'école maison, mais à mes enfants en même temps que les tiens. Là, on s'est rendu compte finalement que c'était pas légalement possible. On peut pas faire ça parce que non. En fait, quand on fait l'école maison, on a seulement le droit de faire l'école maison à nos propres enfants. Donc, si tu les
même quand on a une qualification d'enseignant.
Oui, non, ça change rien là. On a uniquement le droit d'enseigner à nos propres enfants. Donc, pour que je puisse, par exemple, enseigner à mes enfants et aux siennes en même temps, ça prend un permis là. Faut être une école. Ça fait pas plus folle qu'un autre. On s'est dit, ben. Créons une école.
Ça a été ça. Ça se fait pas comme ça, là.
Non, là, en cherchant puis en regardant comment on fait pour créer une école, on s'est rendu compte que le dossier était quand même assez ardu, mais on s'est dit, ben écoute, on se lance puis on essaye vraiment d'avoir la possibilité d'offrir quelque chose. En fait, ce qu'on dit depuis le début, c'est nous, ce qui nous attire, c'est d'essayer d'offrir le meilleur de l'école maison et le meilleur de l'école publique dans une nouvelle formule. Fait que c'est vraiment à partir de là que nous est venue l'idée, puis on a monté un projet qu'on a déposé au ministère. Tu veux raconter la suite?
Je peux. Mais en fait, ça a commencé en 2018, toute cette histoire-là. Puis finalement, on s'est dit, OK, ben, déposons un projet au ministère de l'Éducation en bonne et due forme. Puis, écoute, miracle de ces produits. En 10 jours, on a réussi à tout produire les documents nécessaires, déposer notre demande au ministère selon toutes les exigences. Donc, se créer un OBNL, donc s'enregistrer, toutes les démarches nécessaires au niveau aussi au niveau professionnel des enseignants aussi. Donc, créer des exemples de bulletins. Vraiment, le programme d'éducation, là, fallait
c'est beaucoup de travail.
Oh oui, c'est un document, là.
C'est quand même énorme ce qu'on a réussi à faire en 10 jours, là. Même le ministère, il croyait pas à ça. On a quand même réussi à tout livrer la marchandise. Puis bon, là, finalement, notre projet, là, il y avait quelques éléments qui étaient insuffisants selon eux. Ils doivent quand même là, s'assurer que tout est solide pour pouvoir délivrer un permis d'établissement d'enseignement. Donc, notre demande a été refusée. Finalement, on a décidé de redéposer l'année suivante. Donc, c'est vraiment, il y a un délai. Là, c'est début septembre là, qu'on peut déposer une demande. Okay. On a refait ce processus-là 3 fois. Puis la troisième fois a été la bonne.
Depuis 2018.
Oui, c'est
2018.
Ça, exact, oui.
La troisième a été la bonne. Donc là, on a obtenu notre permis d'établissement d'enseignement pour une école préscolaire primaire.
Je pensais au départ que l'idée de l'école à la maison et tout ça, c'était bon dans la foulée de la COVID et tout ça, mais là, vous me dites en 2018, donc l'idée est venue avant ça.
Oui.
pourquoi c'est important pour vous ou c'est préférable pour vous l'école à la maison? Qu'est-ce qui vous motive davantage que l'école traditionnelle publique par rapport à l'enseignement?
Bien, c'est pas vraiment une question de préférence dans le sens qu'on n'a jamais été on déteste l'école publique, tu sais, ou on déteste la formule X, Y, Z. C'était vraiment dans l'idée d'essayer de chercher le meilleur pour nos enfants. Puis, comme dans toute chose, bien, on voyait des lacunes dans l'école publique. Donc, la première option qui nous est venue comme ça, bien, c'était de se tourner vers l'école maison. Donc là, on s'est mis à réfléchir un peu à l'option. Comme dans toute chose, on y voyait des lacunes aussi. Ça fait que de fil en aiguille, on s'est comme rendu compte que pour nous, la meilleure formule qu'on était en train d'imaginer, bien, c'était on allait être capable d'y accéder via une école privée. Donc, c'est vraiment comme ça qui est venu. On n'est pas anti-ci, anti-ça. Tu sais, c'est vraiment pas ça. On a regardé les options, puis on s'est rendu compte que c'était peut-être possible d'avoir une troisième option sur le territoire ici, étant donné que justement, il n'y en a pas non plus. Tu sais, il n'y en a pas dans le secteur. Donc, on y est allé le tout pour le tout, puis on a lancé l'idée jusqu'au bout.
Okay. Vous parlez de lacunes. Qu'est-ce que c'est, par exemple, pour vous, une des lacunes? On parlait de l'école à la maison, mais de l'école publique. Parlez-moi un peu des lacunes que vous voyez dans ces deux formes d'éducation.
Ben, moi, je considère que les lacunes qu'on peut observer sont vraiment différentes en fonction du besoin de notre enfant. Tu sais, pour un enfant, on peut considérer une lacune à l'école publique pour un enfant qui le sera pas pour un autre.
Dans votre cas.
Dans notre cas, à nous, c'est sûr que si on prend l'école maison, on se disait, ah, oh, ben, tu sais, ça serait plaisant d'avoir un plus grand groupe que, tu sais, uniquement nos enfants parce que, bon, on aime beaucoup la collaboration entre les différentes tranches d'âge, sauf que là, tu sais, on vient quand même limiter quand on a juste quelques enfants à la maison. Du côté de l'école publique, à l'inverse, on se disait « Ouais, c'est sûr que c'est plaisant d'avoir beaucoup d'enfants. » Sauf qu'on trouvait qu'il manquait l'idée de la collaboration entre les différentes tranches d'âge, justement, parce que les classes, bien, on le sait, à l'école publique, bon, c'est première année, deuxième année, troisième année. Donc, nous, dans le projet d'École Espérance, dans ce qu'on a déposé, on a des classes de première à troisième année et des classes de quatrième à sixième année. Donc, on va un peu rechercher ce qu'on trouvait qui manquait de chaque côté dans notre nouvelle formule, finalement, qu'on propose.
OK. Il y en a, par contre, qui pourraient voir ce multiclasse-là, cette formule multiclasse comme un désavantage aussi, parce que...
Oui, tout à fait. Comme je disais, ça dépend vraiment des besoins de chaque enfant. Tu sais, il y en a pour qui ça va être stimulant, il y en a d'autres pour qui ben, ça va apporter certaines difficultés. Donc, c'est sûr que ça ne veut pas dire que la nouvelle formule que nous, on propose, c'est la solution idéale puis c'est la solution miraculeuse pour tous les enfants. C'est pas ça non plus là, qu'on prétend. Là.
Est-ce qu'il y a, justement, on parle de type d'enfant, est-ce qu'il y a un enfant... J'aime pas ça dire ça, un enfant type ou une clientèle que vous visez particulièrement avec cette formule-là ou c'est vraiment ouvert à tout le monde?
C'est vraiment ouvert à tous. C'est sûr que si des parents veulent inscrire leurs enfants puis que leur enfant, il y a des problématiques précises ou qu'il y a des besoins d'accompagnement précis, à ce moment-là, on sera probablement pas en mesure d'offrir les ressources supplémentaires nécessaires parce que, on l'a dit tantôt, c'est une école privée. Donc, le financement de l'école vient des inscriptions et de quelques partenaires financiers qu'on réussit à aller chercher, mais sinon, on ne sera pas en mesure d'offrir des services comme ça. Puis d'ailleurs, le clientèle type, un peu, pour répondre à la question, on aimerait beaucoup être vraiment accessible à monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, on veut pas faire de notre école une école d'élite. Ou,
ouais, ben c'est si on veut le
Oui, c'est ça.
Mais c'est vraiment pas notre objectif, là. Nous, on veut vraiment être accessible à la population du secteur le plus possible. Donc, tantôt, Mélanie parlait des partenaires financiers, là. C'est notre cheval de bataille, essayer de diminuer le coût d'inscription le plus possible pour être accessible vraiment à tout le monde.
OK. Avant de revenir sur les modalités, les coûts d'inscription et tout ça, ben, on a parlé d'une formule différente. On va parler un peu plus concrètement de l'école, justement, au niveau physique, elle va être située où, comment ça va être organisé, ça va être quoi concrètement cette école-là, donc je vous laisse m'en parler, là, c'est pas laquelle
les deux. Tout à fait, vas-y.
Je te céderai ensuite, mais en fait, nos locaux vont être situés dans le complexe immobilier Saint-Jean, donc l'ancien Juvenat.
À Dolbeau-Mistassini.
Oui, exactement, on se cachera pas que la configuration est déjà idéale pour nous, on prend des anciens locaux de classe, donc il y a quand même là, très peu de modifications à apporter, simplement un peu d'aménagement, de rafraîchissement. Donc déjà là, ça permet de diminuer les coûts, donc c'est plus accessible pour nous. On vise, comme Amélie tantôt disait, trois classes. Une classe de maternelle 4-5 ans, une classe de première, deuxième, troisième année, puis une classe de 4, 5, 6e année. Okay. Donc, on y va aussi, tu sais, réaliste, là, un maximum de 57 élèves.
OK.
C'est pas une grosse école, parce qu'en même temps, on sait pas non plus de quelle façon ça va répondre. Mm. Parce que plusieurs peuvent être intéressés, dire « oui, ça m'intéresse cette formule-là, mais tu sais, est-ce que je vais vraiment payer pour mon enfant? » Donc, on veut quand même là, y aller réalistement, okay. Puis on verra dans quelques années s'il y a lieu de réajuster. Mais pour l'instant, on y va conservateur, je dirais.
Votre permis est fait pour
sur une période de 3 ans, okay. Puis on est déjà dans la première année actuellement. Okay. Donc, il faut le renouveler à tous les 3 ans, okay. notre permis d'établissement d'enseignement. Ensuite, ben, je pourrais peut-être te laisser continuer pour le mode de fonctionnement.
Oui, ben en fait, je voulais juste ajouter, là, Mélanie a mentionné 3 classes. Nos classes sont de 17 élèves pour le préscolaire et 20 élèves pour la classe de première, deuxième, troisième, 20 élèves pour la classe de 4, 5, 6, avec un aide-enseignant dans chacune des classes aussi. Donc oui, on a du multiniveau peut-être un petit peu plus qu'à l'habitude, mais on a vraiment les ressources pour répondre aux besoins des enfants.
Quand on parle d'aide-enseignant, est-ce que c'est au niveau de l'éducation spécialisée?
C'est pas nécessairement quelqu'un qui a une formation en éducation spécialisée. En fait, il y a pas vraiment de diplôme là, requis précis pour être un aide-enseignant. Okay. C'est pas non plus un autre enseignant qu'on cherche parce que ce sera pas la personne qui va être en charge de la classe. Donc, on a l'enseignant titulaire, mais on a une personne qui pourrait très bien être le parent d'un enfant inscrit, par exemple, qui veut travailler à l'école, puis qui va apporter vraiment son soutien à l'enseignant, aux élèves, donc travailler en collaboration avec l'enseignante, puis voir c'est quoi les besoins qui évoluent dans le temps, là.
OK.
Voilà. Donc, c'est une école à visée entrepreneuriale. Donc, ce qu'on vise principalement dans les valeurs de l'école, c'est de travailler avec la pédagogie par projet. Donc, on veut que les élèves soient en action. On veut que les élèves développent leur fibre entrepreneuriale via des projets. Donc, on veut les impliquer du début à la fin d'un projet. Si, par exemple, on veut créer un jeu de société, par disons, bon, les élèves vont créer le jeu de société et ensuite, ben, on va chercher qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, tu sais, qui va avoir une portée plus grande que juste apprendre à écrire des phrases interrogatives, par exemple. L'idée qu'on peut apporter avec ça, disons, ça, on pourrait dire, ben, on va se rendre dans un foyer de personnes âgées et on va aller, ben, jouer avec eux une après-midi de temps pour rendre notre projet concret d'une part et aussi voir de quelle façon on peut se rendre utile à la société.
Le fait que vous soyez dans les locaux du CEMR, est-ce que c'était visé aussi par rapport à ça, le côté entrepreneurial, ou c'est juste une coïncidence?
C'est un heureux hasard. C'est un heureux hasard. C'est sûr, on ne cache pas le fait que ça pèse un peu dans la balance aussi. On voit des belles opportunités éventuellement là, pour de la collaboration, ça c'est certain.
Mais non, notre idée était faite même avant de savoir que c'était là qu'on s'en allait. Donc, voilà, école à visée entrepreneuriale, on vise, c'est ça, comme je le disais, à travailler avec la pédagogie par projet. Donc, on veut avoir toujours une raison puis une motivation d'apprendre une notion plus que de remplir une feuille de division, par exemple. Donc, on rend les notions le plus concrètes possible. Et l'autre point qui est important pour nous, c'est vraiment d'essayer d'apporter quelque chose à la communauté, de montrer, d'ouvrir les yeux, en fait, des jeunes vers les besoins de la communauté, vers les différentes tranches d'âge de la communauté aussi. J'ai des exemples qui me viennent comme ça. Si, par exemple, on travaille à l'écriture d'une histoire, bien, on va peut-être en faire un petit livre, puis on va contacter un CPE. Est-ce qu'on pourrait aller une après-midi peut-être raconter nos histoires aux jeunes.
Apporter une contribution.
Oui, exactement. Donc, c'est vraiment notre objectif là, principal, le plus possible. On prend les notions qui sont à voir, parce que ça, c'est important de le dire aussi. C'est pas parce qu'on est une école privée qu'on enseigne ce qu'on veut. Donc, on est tenu d'enseigner le même contenu qui est enseigné à l'école publique. Donc, on prend ce contenu-là, ces notions-là qui sont à enseigner et on regarde de quelle façon on peut les intégrer pour montrer aux enfants que ça sert à quelque chose, ces notions-là, qu'on peut en créer des projets qui sont intéressants, qui sont motivants, et encore plus que ça, de quelle façon notre projet peut avoir une contribution dans la communauté.
La question qui me vient au niveau de... On parlait qu'on n'a pas le droit d'enseigner ce qu'on veut nécessairement, ouais. Il faut que ça respecte quand même le programme du ministère. C'est sur la façon de faire que vous avez de la latitude.
Exact, oui.
Mais au niveau des évaluations, est-ce que ça se fait de la même façon? Les critères vont être les mêmes, j'imagine.
Oui, les critères d'évaluation sont les mêmes.
Des questions que les parents peuvent se poser
aussi.
Oui,
tout à fait. Donc, les critères d'évaluation, c'est les mêmes. Les enfants sont quand même tenus aux examens ministériels de 4e, 6e année. Tout ça, ça reste exactement pareil. La différence, c'est vraiment dans les valeurs de l'école, l'approche approches pédagogiques qu'on utilise. Puis, on a un peu de latitude aussi, comme on le disait, là, sur l'organisation, donc les classes qui sont faites de façon un peu différente. Mm-hmm. On a de la latitude un peu aussi sur l'horaire de cours. Donc, nous, à l'École Espérance, il n'y a pas d'école les vendredis après-midi, jamais. Oui, donc l'horaire est fait en fonction que les élèves sont à l'école de 8 heures le matin jusqu'à 3 heures, là, comme...
Sensiblement,
comme oui, c'est sensiblement public. Comme dans le réseau public. C'est une question de minutes, en fait. Mm-hmm. Là, on joue avec une question de minutes ici et là, qui fait qu'on se gagne les vendredis après-midi de congé.
Parce que quand même, un minimum d'heures aussi.
Oui, oui, tout à fait. On est obligé, on a le même nombre d'heures de cours par semaine qu'à l'école mm-hmm. publique. C'est ça. On a joué un peu avec la répartition des minutes pour offrir ça, qui, en fait, pour nous, est un clin d'œil à l'école maison, d'avoir la possibilité, l'opportunité de passer un vendredi après-midi avec notre enfant. Si, par exemple, on travaille de plus en plus, c'est la mode là, de travailler 4 jours, puis c'est parfait. Nous, on trouve que c'est vraiment bien. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on est capable de libérer les enfants pour profiter d'un petit temps supplémentaire en famille? Donc, voilà, c'est un peu...
Est-ce qu'il y aura une option pour les parents pour qui c'est pas possible? Parce que peut-être qu'il y a des parents qui aimeraient beaucoup l'option... École privée, mais le vendredi après-midi, ils sont tous les deux au travail.
Oui, totalement. En fait, on a aussi le service de garde qui va être disponible. Okay. Donc, on va offrir le service de garde le midi, en fin de journée aussi. Puis, justement, les journées de congé ou le vendredi après-midi, le service de garde va être ouvert aussi. Puis, ce qui est génial, c'est qu'en ayant nos locaux dans le complexe immobilier Saint-Jean, c'est qu'on peut bénéficier du service de cafétéria. Donc, les parents qui veulent pourront offrir le repas du traiteur là, à leurs enfants là, sur l'heure du midi. Donc, c'est un peu moins de tracas aussi pour les parents. Là. Parfois, on s'entend que c'est une solution qui peut nous sauver.
Parce qu'au niveau du transport, sinon de mes questions, de mes interrogations par rapport à l'École Espérance, vous ne pouvez pas bénéficier du réseau du transport public. Donc, est-ce que ça oblige les parents à assurer le transport de leurs enfants?
Oui, 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 tout à fait. Oui, ça oblige les parents à apporter leurs enfants à l'école. L'école commençant à 8 heures le matin, on trouvait que c'était quand même, tu sais, un beau temps pour venir porter les enfants juste bien pour que les parents puissent aller travailler pour 8 heures aussi.
Il y a quand même le service de garde aussi le matin là, qui offre une petite latitude. Là.
Exactement. Puis, c'est sûr qu'on va regarder pour différentes options aussi selon les besoins. On va voir aussi selon les inscriptions qui rentrent, les gens sont situés où, est-ce qu'il y a moyen de mettre quelque chose en place. C'est sûr que ce ne sera pas gratuit parce que c'est un service supplémentaire, donc on ne peut pas le défrayer ou le prendre à même toutes les inscriptions globales, mais c'est des options qu'on regarde actuellement, c'est sûr.
Puis c'est pas parce que l'école est située à Dolbeau-Mistassini que c'est offert uniquement aux enfants de Dolbeau-Mistassini. Si par exemple vous habitez à Saint-Félicien, ça donne que vous travaillez à Dolbeau, que c'est accessible pour vous, que c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est vraiment ouvert à tout le monde là. On n'est pas tenu de s'en tenir au bassin là de la ville, mais pas du tout.
OK, parfait. Dans l'horaire ou dans l'organisation, plus dans l'organisation physique de l'école, vous allez avoir accès à des locaux, mais est-ce qu'il y aura les cours qu'on retrouve traditionnellement à l'école publique ou des options, de la musique, de l'éducation physique, des trucs comme ça, d'autres activités qui sortent un peu plus de l'ordinaire par rapport au milieu où vous êtes situé.
Oui, c'est sûr. Bien, ça fait partie, en fait, du programme de formation aussi, là, exigé par le ministère, de dispenser des cours d'art visuel, d'art plastique, de musique, d'éducation physique, d'anglais. Tout ça rentre là-dedans. Puis en fait, ce qui est génial aussi avec l'emplacement de nos locaux, c'est qu'on a accès à la forêt privée aussi du Juvénat. Puis nous, on mise beaucoup sur le plein air. Donc, le plus possible, les enseignants vont aller à l'extérieur, vont aller explorer la forêt, faire des activités ludiques à l'extérieur aussi. On regarde même les possibilités de l'aménagement d'une cour extérieure. C'est sûr qu'on veut sortir du cadre. C'est vraiment ça, là, notre mot d'ordre.
OK. Au niveau du personnel, vous parliez de 3 classes, donc, 3 professeurs. Oui. Est-ce qu'il y aura d'autres professeurs justement pour ces spécialités-là, l'anglais, l'éducation physique?
Professeurs. Non, des enseignants spécialistes, ça. Ça reste là dans le connu. Là, c'est sensiblement comme à l'école publique, on a des enseignants spécialistes pour les cours de spécialité qui permettent en fait de libérer les enseignants titulaires, leur donner du temps de planification pour préparer leurs cours et les projets.
Là, concrètement, dans votre projet, il est accepté, on a compris ça. L'école va commencer à offrir ses services quand exactement? Est-ce que c'est pour la prochaine année scolaire?
Oui.
J'ai beaucoup d'espérance.
Oui, beaucoup d'espérance. Le nombre d'écoles a été vraiment bien choisi sans savoir, mais...
C'est ça, effectivement. Mais oui, c'est sûr que c'est ce qu'on souhaite, mais encore faut-il avoir les ressources humaines nécessaires, avoir aussi le nombre d'inscriptions nécessaires, parce que si on n'a pas assez d'inscriptions, on ne sera pas en mesure de rémunérer les enseignants non plus et de payer tout ce qu'on a à payer. Donc, c'est sûr qu'on a besoin d'un nombre d'inscriptions nécessaires aussi, puis de quelques partenaires financiers supplémentaires aussi.
Donc, vous êtes là-dedans, concrètement dans la recherche de ressources humaines?
Oui.
Vous n'avez pas trouvé encore?
Oui, il y a quelques postes, il y a quelques personnes intéressées, rien de signé formellement, mais ça commence à popper. On a de plus en plus d'approches aussi d'ailleurs, parce que, tu sais, je pense que plusieurs sont intéressés par cette formule différente-là aussi. C'est sûr que ce n'est pas les mêmes conditions qui sont offertes qu'au niveau public. On n'offre pas de fonds de pension d'emblée, mais je pense que les à côté sont drôlement intéressants aussi, la latitude qu'on peut avoir aussi, la proximité avec la communauté. Donc, vraiment, le côté hors de l'ordinaire peut être...
C'est quand même pas facile dans le dossier ressources humaines, recrutement de main-d'œuvre, déjà en général. C'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que vos ressources sont trouvées ou c'est vraiment difficile?
Oui, mais en même temps, ça ne nous prend pas 50 personnes.
Effectivement, exactement. Le défi n'est pas le même.
Aussi, non.
C'est ça. Puis, en fait, on commence là, à approcher les gens puis à essayer de combler nos postes. Donc, on est encore très ouvert puis on peut être agréablement surpris, là, tout dépendant de l'intérêt des gens.
Est-ce qu'il vous faut absolument des... parce qu'on en parle beaucoup ces temps-ci aussi dans le réseau public, des enseignants légalement qualifiés ou...
Oui.
Les exigences du ministère encore.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est les exigences du ministère, c'est la même chose qu'on soit privé-public. On cherche du personnel qualifié, tout à fait.
Au niveau des partenaires financiers, vous cherchez n'importe lequel, en fait, entreprise ou partenaire qui voudrait contribuer à un projet comme ça, donc...
Oui.
Invitation à tous.
Oui, c'est
à ça. Ça peut intéresser.
Et voilà. On va aussi faire une campagne de sociofinancement avec La Ruche.
OK.
Je ne sais pas si vous en avez déjà
entendu. On peut en parler un petit peu pour ceux qui sont moins connaisseurs de cette formule-là.
Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est une plateforme, je dirais, virtuelle de sociofinancement. Donc, c'est une façon d'aller chercher des différents partenaires, que ce soit des citoyens ou des entreprises, donc qui peuvent... En fait, toute personne qui croit au projet ou qui a envie de nous donner un petit coup de pouce pourront donner un montant vraiment à la hauteur de leur capacité. Donc, on est en train de travailler ce côté-là aussi avec La Ruche, qui est financée par Desjardins, en fait, là, ce programme-là.
Une question que les parents qui sont intéressés se posent certainement au niveau des coûts d'inscription. Je ne peux pas vous poser la question.
Oui.
Ça va représenter un montant de combien pour que notre enfant fréquente l'école Espérance?
C'est 3 000
par année.
Oui, 3 000 par année.
Ouais.
On a essayé au début, quand on a fait nos premiers dépôts, on a essayé de topper ça à 2 000 On avait vu que c'était pas possible, on n'a pas eu le choix d'augmenter. Il faut être réaliste aussi, il faut être capable d'offrir des conditions à nos enseignants aussi, être capable d'avoir du personnel pour venir travailler. Donc, on n'a pas le choix là, pour couvrir les dépenses, monter à 3 000 Mais en même temps, si on trouve tout plein de partenaires financiers, mais peut-être qu'on pourra diminuer aussi le coût d'inscription. Ça serait vraiment notre souhait. Là.
Oui.
On aimerait que les parents puissent inscrire tous leurs enfants à notre école, mais c'est sûr que si tu as 3 enfants à inscrire, ça fait 9 000 par année. C'est un bon montant. On en est tout à fait conscient, puis on aimerait le plus possible être accessible puis offrir là, différents soutiens financiers là, aux besoins. Là. Donc, c'est ce qu'on travaille actuellement.
Vous avez sûrement des plateformes où on peut aller chercher l'information. Vous avez un site web dont l'adresse est
écoleespérance.ca.
Donc, facile à retenir.
Oui.
Puis, si les gens veulent inscrire tout de suite leurs enfants ou avoir plus d'informations, poser des questions, ils vous rejoignent où? Est-ce que c'est par le site web? Vous avez probablement une page Facebook aussi.
Oui, exactement. Donc, page Facebook, site web. Sur le site web aussi, le formulaire de contact. Donc, vous pouvez nous inscrire, vous abonner à notre infolettre pour avoir aussi les détails au fur et à mesure. Il y a aussi un onglet où vous pouvez déposer une demande. Donc, la façon que ça fonctionne à l'école privée, on doit ouvrir un dossier, donc déposer une demande et par la suite, vous serez contacté selon le nombre de places, selon le nombre d'inscriptions pour ensuite officiellement inscrire votre enfant.
Okay. Parce que s'il y a plus d'inscriptions, vous devrez faire une sélection parmi les, est-ce que les critères établis déjà ou vous dites, on va voir, puis on verra établir les critères par la suite.
Mais en fait, là, on n'a pas de critères précis. On ne fait pas de sélection par rapport à qui vous êtes, où vous venez, peu importe. Là, les critères ne sont pas à ce niveau-là. Je vous dirais que c'est plutôt une question administrative, une question technique. Donc, est-ce qu'on va y aller peut-être par ordre d'inscription? Ça risque d'être le principal critère, effectivement. Là.
OK, voilà. Parfait. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été ici à Accès MRC pour parler du projet. On vous souhaite que votre projet fonctionne bien, que vous ayez les inscriptions nécessaires pour démarrer tout ça. Donc, à l'automne prochain.
Oui, merci pour l'invitation.
Ça me fait plaisir. Merci. Donc, c'était Accès MRC. On sera là la semaine prochaine encore avec un autre sujet fort intéressant.
Confiture de bleuet?
Elle est fabriquée au Lynch Clinchton. T'imagines-tu la quantité de CO2 que ce produit-là a créé?
Je le sais pas. Mais...
Ben regarde, Antoine, juste là. Pollution.
Wow! Comment t'as fait apparaître ça?
Pollution. Pollution.
Comment t'as fait apparaître ça?
Magie! Regarde juste en dessous. Bon, parle-moi d'un bon choix. Comme tu peux voir, Antoine, cette délicieuse confiture de bleuet a été fabriquée ici, au lac Saint-Jean, à Albanel. Quand t'achètes local, ça fait bien moins de pollution. Ça fait travailler des gens d'ici, puis après ça, eux, ils font quoi?
Ils mangent la confiture.
Ah ben non, Antoine. Ils vont dépenser dans des magasins du coin, ça fait travailler encore plus de monde, et ça, ça fait fonctionner l'économie d'ici. C'est un gros plus pour nous.
Fait que dans le fond, c'est important d'acheter local, puis ça fait vivre tout le monde dans notre coin.
Bravo, Antoine. Bon, viens-t'en. On va être en retard.